Chapitre 24. En se réveillant, Cornel Jasperson s'aperçut que ses jambes étaient entravées à l'aide de gros scotch, depuis les chevilles jusqu'aux genoux. Que ses poignets étaient ligotés de la même façon, qu'il avait un chiffon dans la bouche et qu'une bande de scotch le bâillonnait. Complètement perdu, il se hâta de se rendormir. La deuxième fois qu'il ouvrit les yeux, toujours aussi étonné de ce qui lui arrivait, il décida de ne plus dormir. Il lui fallait comprendre ce qui s'était passé, mais le sommeil finit par l'emporter malgré ses efforts. La troisième fois, il comprit qu'on l'avait drogué. Une bouffée d'angoisse le submergea, et il devint fou furieux. Ce géant de plus de 2 mètres aux allures de Godzilla n'aurait dû avoir peur de rien. Ses énormes mains capables de réduire un crâne en miettes en avaient effrayé plus d'un, bien malgré lui. C'est vrai, certaines personnes affirmaient que son visage couleur chocolat au lait avait l'innocence de celui du petit Jésus dans sa crèche, mais il les soupçonnait de dire ça par gentillesse. Il ne savait pas vraiment quoi penser lorsqu'il se regardait dans la glace. Toujours est-il qu'il n'avait pas reconnu le petit Jésus en apercevant son reflet, et que ses traits ne lui avaient jamais valu l'affection de ses semblables, ni n'avaient jamais éveillé l'intérêt des femmes. Et c'était aussi bien, car au nombre des phobies de Cornel, avant l'effondrement de notre civilisation, les bruits désagréables, la foule, la ville, la tristesse et la joie lorsqu'elles étaient débridées, ou encore les oignons, figuraient en bonne place la hantise qu'on le touche. On avait expliqué à Cornel qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, parmi diverses formes d'autisme, sans qu'il sache si c'était réellement le cas. Il savait en revanche que le moindre contact avec autrui lui faisait l'effet d'une blessure. Une blessure psychique qui ne saignait pas, mais qui lui mutilait le cœur et l'âme. Il était terrorisé à l'idée qu'en le touchant, les gens le vident de sa substance et qu'il finisse par n'être plus qu'une énorme coquille vide. C'est la raison pour laquelle il devint fou furieux en comprenant qu'on l'avait ligoté et bâillonné dans son sommeil, puisqu'il avait bien fallu que quelqu'un le touche. Il soufflait, suait et tremblait comme un marathonien, le chiffon dans sa bouche gorgé de salive, avec l'impression que des parasites vampirisaient son système sanguin, que des araignées velues grignotaient la moelle de ses os. Il aurait pu rester dans cet état des heures durant s'il ne s'était pas souvenu du petit garçon. Trévis. Qu'est-il advenu de Trévis ? Trévis et ses 2 chiens s'étaient réfugiés pendant quelques jours chez Cornel dans la vallée de Borrego en Californie, dans la bibliothèque qu'il s'était aménagée en prévision de la fin du monde, au-dessus du bunker souterrain dans lequel il se réfugierait le moment venu. Depuis, le géant et le petit garçon avaient atterri à Scottsdale, dans la maison des Cantors, dans des conditions rocambolesques que Cornel avait du mal à croire, bien qu'il les ait vécues. « Les chiens ? Qu'est-il advenu des chiens ?» À son arrivée dans la retraite secrète de Cornel, le petit garçon était accompagné de 2 bergers allemands, Duke et Queenie. Ceux-ci appartenaient aux cousins de Cornel, Gavin, ainsi qu'à sa femme, Jessie, à qui Jane Oak avait demandé de cacher son fils. Il était arrivé malheur à Gavin et Jessie, sans que Cornel sache précisément de quelle façon, tout en se doutant que de méchantes personnes les avaient tués. Il avait eu peur des chiens au début, parce qu'ils pouvaient le mordre, mais plus encore parce qu'ils risquaient de le toucher. Il est facile de dire aux gens de ne pas vous toucher, la plupart l'acceptent. Mais allez dire ça à des chiens qui ne savent pas que vous présentez des troubles de la personnalité. Cornel avait craint que les bergers allemands le touchent et finissent par le vider complètement de sa substance. Sauf que ça n'avait pas été le cas. Il s'était aperçu que le contact des chiens n'avait pas sur lui le même effet que le contact des gens. Les chiens l'appréciaient et il avait appris à les apprécier. On pouvait même dire qu'il les aimait. Il aimait le petit garçon et il aimait les 2 chiens, ce qui le stupéfiait. Lui qui n'avait jamais vraiment aimé personne auparavant. En fait, il n'avait jamais su qu'il en était capable. Il appréciait les gens, mais apprécier et aimer étaient des sensations bien distinctes, et il appréciait le fait d'aimer. « Si ça se trouve, Quelqu'un a enlevé le petit garçon. Si ça se trouve, je ne le verrai plus jamais. Si ça se trouve, les chiens sont morts. Si ça se trouve, le petit garçon est mort. » Les blessures psychiques de Cornell saignaient abondamment, et des hordes d'insectes imaginaires investissaient son corps tout entier en tissant leur toile, en pondant et en dévorant sa chair. Tout ça parce qu'un inconnu l'avait touché pendant son sommeil. À l'idée que le petit garçon soit mort, il fut pris d'un tel dégoût de lui-même qu'il hurla dans le chiffon détrempé qui lui obstruait la bouche. « Bon sang, Cornell, le petit garçon a besoin de toi. » En s'apercevant qu'il était capable d'aimer, il avait compris qu'avec l'amour se développait le sens des responsabilités à l'endroit de ceux auxquels on s'attachait. Les gens comme les chiens. L'amour pouvait devenir aussi douloureux que la haine si l'on perdait des êtres aimés. Dans la vallée de Borrego, lorsqu'il était seul avec Travis et les chiens, Cornell était terrorisé à l'idée que le petit garçon puisse mourir parce qu'il n'avait pas su le protéger. Cette hantise lui avait permis de surmonter ses propres angoisses, de ne plus penser aux araignées qui tissaient leur toile dans ses os, de se calmer et de s'occuper de l'enfant. Il lui suffisait de recommencer. Cornell vivait avec lui-même depuis 32 ans et ne comprenait pas toujours très bien son propre fonctionnement, ce qui ne l'empêchait pas de savoir qu'il était capable de recommencer. En dépit de son handicap, il en avait les moyens. Il était très intelligent, par exemple, et il avait de l'argent. Il était devenu très riche, tout seul dans son coin, en mettant au point des applications qui s'étaient révélées utiles à des millions de gens. Il avait toutes sortes de dons. Celui d'aimer, celui de gagner beaucoup d'argent, celui de réfléchir à la façon de se tirer de ce mauvais pas. À condition, bien sûr, de museler sa peur. Or, il n'avait aucune raison d'avoir peur à cet instant précis, puisque personne ne le touchait. Tout était silencieux autour de lui. Il n'était pas au milieu de la foule et aucun oignon ne se trouvait à portée de main. Ses phobies n'étaient donc que de mauvaises excuses. Qu'elles aillent au diable. Celui qui avait drogué et entravé Cornell hantait peut-être toujours la maison. Il fallait donc éviter d'attirer son attention en faisant du bruit, mais Cornell était maladroit. Il n'y pouvait rien si son grand corps était maladroit. Il se mit sur le flanc, balança ses jambes dans le vide et s'assit sur le bord du lit, les jambes tendues, le scotch enroulé autour de ses genoux l'empêchant de les plier. En se préparant au cataclysme planétaire qu'il redoutait, Cornell ne s'était pas contenté de concevoir et de construire son bunker secret du désert d'Anza Borrego. Il s'était également tenu informé des techniques de survie, grâce auxquelles il pourrait tenir entre l'effondrement de la civilisation et l'arrivée d'une autre. À ce titre, il connaissait deux moyens de se libérer si jamais quelqu'un le ligotait à l'aide de gros scotchs.